Bonjour, nous accompagnons dans la rue Philippe Godard, auteur de nombreux ouvrages dont La Toile et Toi paru aux éditions Gulfstream et Le Mythe de la Culture Numérique paru aux éditions Le Bord de l'Eau.
J'ai pas de smartphone, non, pas de tablette, donc ça résout des problèmes. Par contre, c'est une demande incessante. Donc voilà, on a un ordinateur familial qu'on se partage et nous, on utilise Internet de façon contrôlée. On en a encore parlé tout à l'heure. Voilà.
Donc c'est vous qui imposez ?
Bon, c'est un choix de famille, quoi. J'ai ressorti la règle du 3, 6, 9, 12. Pas d'écran avant 3 ans, pas de console de jeu avant 6, pas d'Internet sans contrôle parental avant 9 ans et pas de réseaux sociaux avant 12 ans.
Réseaux sociaux avant 12 ans, oui. Il y a eu une campagne, je crois que la campagne date de l'an dernier, parce que c'est assez récent, qu'il y a une règle de 3, 6, 9, 12. On peut juste dire que ce qui est bizarre, c'est pas de réseaux sociaux avant 12 ans, alors que Facebook, c'est soi-disant interdit avant 13 ans. Mais elle a quel âge, votre fille ? Tu as quel âge ?
9 ans.
Et t'es donc CM1 ou CE2 ?
CM1.
CM1. Oui, mais alors en CM1, elle est encore jeune. Disons qu'elle est encore jeune pour avoir tout ça. Mais elle arrive, effectivement, cette demoiselle arrive à l'âge où tout peut basculer et où, de mon point de vue, ça va dépendre de vous, c'est-à-dire ça va dépendre des parents. Là, c'est clair. Ça, c'est très, très clair parce que ça se voit dans les collèges ou dans les... Bon, elle n'est pas encore au collège, donc tu es en primaire, mais ça se voit... Enfin, c'est... Quand on fait une enquête dans une classe, on voit que c'est très, très net, quoi. Souvent, c'est les parents, d'ailleurs, qui inscrivent leurs enfants ou alors qui laissent le grand frère ou la grande sœur inscrire un petit qui a 10 ans. Là, elle est à l'âge crucial.
Il y a beaucoup de copains-copines dans ta classe qui ont un téléphone ou une tablette ?
La moitié.
La moitié ?
J'ai une copine qui en a un, une autre copine qui a une tablette. Elles ont des fois télé dans leur chambre.
Ah, oui, mais ça, je pense que ce qu'elle dit, Yuna, à dire vrai, je pense qu'à son âge, c'est le point le plus essentiel. C'est-à-dire que et tes copines qui ont la télé dans leur chambre, c'est elles qui les éteignent le soir, la télé, ou est-ce que c'est leurs parents qui viennent l'éteindre ? Est-ce que tu le sais, ça ?
Je pense que c'est mes copines.
Voilà, je peux confirmer, même si je ne connais pas les copines de Yuna, je peux confirmer encore hier, là, dans un collège, sur combien il y avait d'enfants, 17. Il n'y en a pas un seul, c'est pas compliqué, il n'y en a pas un seul où c'est les parents qui viennent éteindre la télé le soir. Elle a quand même, t'as 9 ans, c'est ça ce que tu as dit ? Elle a 9 ans, il y en a d'autres, mais même, ils ont à 12 ans et à 13 ans. C'est un problème de santé publique, tout simplement. C'est un problème de santé publique dont les parents sont totalement inconscients. C'est sûr que si elle a les oreillons, on va se précipiter à l'hôpital. Mais par contre, que les enfants regardent la télé jusqu'à 10h, 10h30, 11h, avec des programmes qui sont absolument pas faits pour eux. Alors après, du coup, il y a l'addiction à l'écran, parce que là, c'est une addiction à l'écran, elle va passer naturellement à la tablette, au smartphone, etc. Mais avant, il y a d'abord une addiction. Voilà, il faut interroger les enfants, c'est eux qui en parlent le mieux, finalement.
T'as beaucoup de copines qui dorment en classe ?
Non, ça m'est déjà arrivé une fois en CE1. Il y avait une fille qui s'était endormie, mais sinon, non. Des fois, elles sont à moitié endormies, elles sont dans la lune.
Et pourquoi tu souhaiterais avoir une tablette ?
Bon, j'en veux pas.
Non.
Très bien.
Naïg, elle en veut une.
La petite sœur, ouais. Bon.
Et la motivation ?
Je pense que c'est plus pour faire des jeux sur les tablettes, pas forcément pour aller sur Internet ou pouvoir faire des jeux. Pas forcément non plus en ligne. Hein. Après, voilà, nous aussi, on a instauré, pas d'écran dans les chambres, avoir des lieux où on essaye qu'il n'y ait pas de connexion à Internet. On regarde, on ne monte pas l'ordinateur dans la chambre. Alors, elles sont petites encore, ça sera à discuter plus tard, mais des parents d'ados qu'on connaît, qui font descendre les téléphones à l'heure du coucher. Pas de dormir avec le téléphone portable, et puis on est sûr qu'ils n'aillent pas sur Internet. Mais toi, tu demandes déjà pour le téléphone pour la 6e. C'est dans un an.
Non,
tu...
5e.
Ça y est, t'as reculé.
Non, c'est papa qui m'a dit de reculer.
Ben oui, bon, on verra. Voilà.
Pourquoi tu veux un téléphone en 5e ?
Bah, pour pouvoir parler plus souvent avec mes copines.
Mais justement, puisque tu seras en 5e, enfin, donc là, tu es à l'école, après, tu seras au collège, après, tu seras au lycée, de toute façon, tu vas aller voir tes copines. Et puis, plus tu seras grande, plus ton papa et ta maman, ils te laisseront sortir dans la rue. Si tu dis que tu vas chez, je sais pas, une copine qui s'appelle Marie, et bah, tu vas chez Marie qui habite à 300 mètres, et bah, ta maman, elle dira, bah oui, tu peux aller chez Marie.
Oui, bah, des fois, et bah, je vais, tu sais, chez Lou, elle est dans notre rue, et aussi, une fois... Bah, je vais chez Lucie. En fait, notre impasse, il y a l'impasse. Et ensuite, quand on tourne, et bah, y a une autre maison et il y a une fille qui s'appelle Lucie, elle est copine avec nous.
Et tu peux y aller. Et tes parents, ils te disent, bah, vas-y, t'as le droit d'aller chez Lucie. Tu vois?
Sans téléphone, sans contrôle, en se disant...
Je voulais dire à Yuna que tu vois, ta maman et puis ton papa, ils te font confiance.
Et puis, il y a un téléphone fixe à la maison que tu utilises quand tu veux, si tu veux appeler tes copines. Il n'y a pas besoin de portable pour ça. Par contre, ce que tu as, c'est aussi une adresse mail. Ça, je lui ai créé, où elle peut échanger, envoyer des messages, ou quand on est en vacances, pour ne pas toujours téléphoner. Donc, je trouve qu'à 9 ans, c'est bien de pouvoir... un mail, c'est beaucoup plus libre. C'est, voilà, on l'écrit quand on veut, on le lit quand on veut, quand on ouvre sa boîte aux lettres, pas comme un coup de téléphone.
Claire a raison. Il y a une vraie addiction au smartphone parce que, là, vous venez de le dire, c'est la question de l'immédiateté. Là, vous recevez votre mail. Si vous avez décidé que vous alliez, par exemple, que Yuna, elle va, ou n'importe quel enfant, va sur l'ordinateur de 6 à 7, mettons, le soir, de 18 à 19h, bah, elle va de 18 à 19h et puis c'est tout. Et effectivement, c'est pas du tout pareil que le machin qui fait bzz, bzz, bzz. Ah, ça y est, j'ai un message. Et puis voilà, l'addiction à donc là, via le numérique, c'est quelque chose contre laquelle il faudrait lutter parce que c'est très très grave. Maintenant, il y a des sociologues qui écrivent des choses là-dessus sur l'accélération du temps social. Alors les enfants, et puis même nous les adultes, mais même les enfants, eux, c'est encore pire. Parce que s'ils vivent constamment dans l'instant, ils vivent dans le stress et ça se voit. Moi, je pense que s'il y a de plus en plus de gamins hyperactifs, c'est assez largement à cause de ça. Parce que c'est complètement stressant d'être en train d'attendre un SMS.
T'as tout compris ?
Un peu.
Qu'est-ce que tu as compris ?
Que c'était dangereux d'attendre un SMS, c'est quand ça vibrait dans la poche, je voudrais stresser.
Ce que je trouve qui est bien, c'est que toi, tu as 9 ans, et puis toi, tu as plein de temps devant toi. Nous, on a moins de temps, là, tous les deux. Alors nous, on a moins de temps. Mais même nous qui avons moins de... parce qu'on est plus vieux, tout simplement. Donc toi, tu as plein de temps devant toi, et je pense que c'est absolument... T'as une chance énorme, t'as même plus de chance que ta maman, parce que ta maman, elle est forcément plus vieille que toi. Et du coup, c'est une chance énorme d'essayer de profiter de tout ce temps que t'as devant toi. Et profiter de tout ce temps que t'as devant toi, c'est pas du tout courir comme une folle à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. C'est au contraire de prendre du temps, et ça, c'est absolument génial.
Souvent, ce sont les parents qui donnent un téléphone à leur enfant pour se rassurer.
Ah oui, c'est vrai, parce que Ina, une fois, elle a un téléphone... Une fois, on était à un match, on l'avait emmenée, et elle a téléphoné à sa maman pour lui demander si elle pouvait lui amener un sandwich.
Yuna, si on n'a pas de téléphone, on est moins surveillé par ses parents ?
Oui, oui, peut-être. Je sais pas.
C'est pas un argument.
Non, 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 mais bon, voilà, le téléphone, moi, on verra, mais pour l'instant, c'est pas du tout au programme.
Vous faites pas partie de ses parents qui veulent le surveiller ?
Non, en sixième, non. Non, non, le cousin, c'est pareil, hein, il est en troisième.
12 ans.
Il est en troisième et il doit être un des seuls, il doit être deux ou trois dans sa classe à ne pas en avoir. Et ses parents ont dit en seconde, voilà.
Il y a une adresse Facebook, par contre,
ouais, depuis cette année.
Il y a une pression par le groupe d'élèves sur l'élève, non ?
Oui, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, les parents, ils ont un rôle à jouer. Bon, de toute façon, ça existait déjà à notre époque, parce que la télé, est-ce que tu as regardé le dernier film, patati patata, bah non, j'ai pas regardé le film hier soir. Bon, d'abord, ça dépend aussi si les parents consacrent du temps pour s'occuper de leurs enfants, tout simplement. On peut passer des films qu'on choisit soi-même plutôt que d'essayer les enfants devant la télé où il n'y a pas grand-chose. Et puis après, par rapport au téléphone, l'usage, il peut être raisonné. Puis après, il y a une différence entre un téléphone et un smartphone, parce que le téléphone portable, il permet pas d'aller sur Internet. Téléphoner, c'est une chose. Après, avoir un outil qui vous permette d'aller sur Internet, c'est ça qui fait qu'il y en a, ils se couchent à 10h, 11h, minuit. Il y en a, c'est complètement fou. Et il y a des, vous savez que moi, j'ai rencontré parfois des enfants qui me disent, ils arrivent et puis ils sont complètement crevés le matin. Parce qu'il y a un copain ou une copine qui s'est réveillé à 1 ou 2 heures du matin. Je leur dis, mais t'as laissé ton téléphone allumé sous ton oreiller. Bon, alors, qui c'est qui va nous dire que les parents, ils peuvent pas, comme vous l'avez dit là,
ouais, hein,
vous avez cité, ton téléphone, tu le gardes jusqu'à, je sais pas, moi, 9h, mettons, t'es en quatrième, tu gardes ton téléphone jusqu'à 9h, puis à 9h, tu le rapportes, et puis voilà, c'est tout.
Ils veulent pas rentrer en conflit avec leurs enfants aussi, et leur mettre des limites, et du coup, voilà, il y a une foule de gamins qui ont des tablettes, accès à Internet, des 6 ans, quoi, dès le CP, c'est... Et du coup, ils peuvent accéder à des contenus sur Internet, passer des... Voilà.
Il y a aussi le problème des contenus, parce qu'effectivement, il y a des contenus qui leur sont absolument pas destinés et sur lesquels ils tombent par hasard. Oui. Là aussi, on devrait s'en préoccuper. Les parents qui cèdent devant leurs enfants, ils commencent d'abord par tracer une image dantesque et on a l'impression qu'ils ne peuvent pas dire ça aux enfants, comme s'ils leur disaient quelque chose qui est une horreur. Mais non, c'est pas une horreur de leur dire, bah, écoute, tu sais, à 9h, si t'as pas encore sommeil, tu lis, tu fais je sais pas quoi, ou... mais tu me rends ton téléphone portable, parce que j'ai pas envie que tu sois réveillé à 11h, minuit, ou... Voilà, c'est pas compliqué, hein.
Yuna, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, bah, elle, Ina, par contre, le soir, en fait, quand elle ne sert pas de son téléphone, de sa tablette, elle les met dans un tiroir en bas et pas dans sa chambre.
D'accord, en bas dans sa maison.
Une application petite souris quand on a perdu une dent, ça peut être sympa, non ?
Justement, ouais, c'est ce nous, on va acheter le cadeau de la petite souris, là. Hein, et c'est quoi ?
Un livre.
Philippe est un auteur jeunesse.
Mais oui, alors du coup, les livres...
C'est peut-être pas forcément ceux-là, mais...
Non, ceux-là, ça, c'est pour plus grand.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a à conseiller plein... de Philippe Godard ?
Oh non, ouais. Mais là, ça, j'ai quand même pas à conseiller mes propres livres dans votre radio, ça fait quand même pas très sérieux.
Qu'est-ce que vous recherchez ?
Qu'est-ce que tu recherches ?
Bah, des livres qui font un peu magie, qui se passent au lycée, qui ont à peu près le même thème d'Harry Potter, qui sont gros et qui n'ont pas d'image et qui sont des romans.
Ah, elle a un avis qui est très, très, voilà. Très précis.
Donc, je pense que les libraires seront bien placés pour nous conseiller.
Un livre sur les diplodocus ?
Non.
Cette petite est absolument géniale. Non, parce qu'il vient de te poser la question, parce que j'ai dit avant, bah, tout à l'heure quand on discutait, que les éditeurs, ils publiaient beaucoup trop de livres sur les diplodocus. Donc voilà, et c'est absolument génial. Merci Yuna, parce que tu as dit que tu voulais pas de livres sur les diplodocus. T'es vraiment une petite super.
Et des gros livres.
Oui, bah, puis elle veut des romans. Bah, donc il faut prendre des romans qui sont bien écrits. Mais heureusement, il y a plein de romans qui sont bien écrits. C'est pas un problème. Et puis...
Je lis un peu trop vite. Du coup, ça passe vite quand je lis un livre.
Ouais. Tu retiens ?
Oui. Des fois, les livres que j'aime bien, je les lis plusieurs fois.
Bah, bravo Yuna et bravo la maman de Yuna.
Et toi, tu préfères le livre plutôt que de le lire sur une tablette ?
Oui, le livre, c'est mieux. Moi, pour l'instant, mes livres préférés, c'est Harry Potter, Archie Gwyn et le magicien et les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire.
Ouais, très bien, hein. Non, elle a 9 ans, ce qui est super, c'est de prendre de l'intérêt à la lecture et tout. C'est une étape qui est fondamentale, je pense, dans la...
Et tu écris aussi un petit peu ?
Oui, en classe, des fois... Bah, justement, sur ma boîte d'email, j'écris. Des fois, j'écris. Mais moins que les livres, j'aime.
Et tu apprends la poésie ?
En classe, oui.
Et tu n'as pas un petit poème à nous réciter, là ?
Attends. Dans la nuit de l'hiver, galope un crottin blanc, c'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Arrivé au village, il voit de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, s'assoit sur la poêle rouge et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau, ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau, Jacques Prévert. J'ai appris à l'école.
Et la radio, c'est alternant.
Alternant,
papa, il s'appelle aussi Philippe.
Ah. Ben, il n'y en a pas beaucoup pourtant.
Il y a Philippe Lebel.
Oui, il y a Philippe Lebel, Philippe Auguste, Philippe 1, Philippe 3, Philippe 5. Il y a Philippe 6, Philippe 6 de... Ça va jusqu'à Philippe 6 de Valois. Ouais. Bon, bravo, Yuna. Merci beaucoup.
Et puis, oui, on regardera
l'alternant. Ce sera en podcast. Et c'est l'intérêt du numérique, Philippe.
Oui.
Non, mais c'est un provocateur, voilà. Donc, avant, il y avait des cassettes. Hein, ça fonctionnait très bien. Hein.
Ouais, mais il ne fallait pas rater le début. Et
non, mais quand vous étiez invité dans une radio, en fait, la radio, elle vous donnait une cassette. Oui. Bon, voilà, alors, voilà. Donc,
ça nous ruinait.
Alors, ça aurait été embêtant, parce que pour donner une cassette à Claire, il aurait fallu d'abord qu'on rentre à la radio, qu'on prenne votre adresse. Mais mine de rien, c'est ce qu'on aurait fait. Ouais. Et puis, on a l'impression qu'il n'y a que le numérique qui peut permettre ça. Mais voilà, puis ça n'aurait pas
ça
été bien compliqué.
Ça facilite beaucoup de choses,
mais voilà.
Privilégier les vrais rapports aussi.
Oui.
Nous accompagnons dans la rue Philippe Godard, auteur de nombreux ouvrages dont La Toile et Toi paru aux éditions Gulfstream et Le mythe de la culture numérique paru aux éditions Le Bord de l'eau.
Pas tellement longtemps, j'ai passé un mois à Luçon et je suis allé dans une école primaire, donc avec des petites filles et puis des petits garçons de l'âge de Yuna. C'était une classe double de CM1, CM2. Il faut bien se dire quand même que Yuna et sa maman qu'on vient de croiser dans la rue représentent une minorité, pas une extrême minorité, mais ils représentent une minorité. Donc pour vous donner un ordre d'idée, alors ça n'a pas une valeur statistique énorme, mais sur 17 enfants de l'école dans laquelle j'ai travaillé pendant un mois, il y en avait 12 qui avaient la télé dans leur chambre. Il n'y en avait pas un seul, hein, je dis bien, sur les 12, où c'était les parents qui venaient éteindre la télé. Et sur ces 17 gamins, il n'y en avait que 4 ou 5 qui n'avaient pas de téléphone portable. Et la plupart de ceux qui avaient un téléphone portable, ils avaient déjà un smartphone. Donc il faut bien se dire que la petite Yuna là, qu'on vient d'interviewer, et puis sa maman, elle ne représente pas la réalité. Mais après, il faut aussi continuer, parce que Yuna, elle est à l'école, elle est en CM1. Et là, comme j'étais pendant un mois dans cette école, c'est qui les enfants qui ont les meilleurs résultats scolaires? Et là, il n'y a pas photo. C'est quelque chose, ça ne se discute pas, donc il faut quand même le dire. Ceux qui ont les meilleurs résultats scolaires, c'est ceux qui n'ont pas la télé dans leur chambre et qui n'ont pas de téléphone portable. Et là, on peut toujours raconter ce qu'on veut. C'est quelque chose qui crève les yeux. Il y a une relation directe entre le fait que les gamins n'ont pas la télé dans leur chambre et les résultats scolaires. Moi, je trouve que c'est presque... c'est pas un crime contre l'enfance, parce que vous allez dire encore que j'exagère, mais c'est presque ça quand même. Ce qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, ce que facilite le numérique, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Parce que si c'est pour que les gamins... ils restent jusqu'à 11 heures dans leur piôle à faire Call of Duty, Assassin's Creed, et puis 2-3 jeux de violence ou de je sais pas trop quoi. Moi, j'aurais quand même qu'on m'explique l'intérêt. Un enfant, il est là. Elle était petite, donc son premier but, c'est d'abord de grandir. Et puis après, c'est aussi de s'émanciper, de travailler à son émancipation. C'est quand même ça le but, c'est de travailler à son émancipation. C'est pas l'école, c'est pas pour avoir un travail. L'école, c'est pour travailler à son émancipation. Et là, l'émancipation, on n'a pas à dire l'émancipation, c'est ça, ça, ça et ça. Par contre, on peut quand même dire l'émancipation, c'est sûr que c'est pas ça. Et un gamin qui va arriver à rien parce qu'il aura joué jusqu'à 11h du soir et puis qu'arrivé au collège, il aura des résultats catastrophiques et puis que de toute façon, il n'arrivera même pas à faire ce qu'il a envie de faire. Il n'y arrivera pas parce qu'il y a une sélection et que notre système, pour le moment, il est fondé sur la sélection.
J'ai pas de télévision. Mince, c'est un choix. Après, ça m'arrive évidemment de la regarder. Bon, je préfère largement aller au cinéma et après, oui, regarder des films aussi sur mon ordinateur.
L'ordinateur.
Ouais, l'ordinateur. Là, ça, oui, je sais, j'y passe du temps.
Téléphone sur l'Internet
aussi. Oui, en particulier.
Combien de temps?
Par jour, avec ou sans le travail?
Comptez sans le travail.
Alors, sans le travail, je dirais 1h30 par jour.
1h30, c'est beaucoup.
Non, 1h30, c'est pas beaucoup, les Français. Mais ça dépend. Si on compte... les études, ils disent que les Français passent entre 3h et 4h par jour devant un écran. Mais bon, c'est assez compliqué, en fait, de savoir. Parce qu'il y a aussi l'histoire de la qualité. Parce que vous, visiblement, encore une fois, d'une certaine manière, on n'a pas de chance. Parce que visiblement, vous n'avez pas de télé. Et en plus, sur Internet, l'intérêt, c'est que vous choisissez vos films. Parce que c'est ça, la différence fondamentale, en réalité, entre l'Internet... Enfin, les films sur le web et puis les films à la télé. Bon, évidemment, à la télé, je sais bien qu'on peut dire, oui, mais on peut presser sur la 1, la 2, la 3, la 4, les 45 chaînes, je ne sais pas combien. Oui, d'accord, mais sauf que c'est les 45 chaînes et vous ont proposé ça, alors que vous choisissez le film que vous voulez, réellement le film que vous voulez.
Et le téléphone?
Oh, le téléphone, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout combien de temps, je suis incapable. C'est très, très aléatoire d'une journée à l'autre. Non, ouais, j'utilise quand même pas mal.
Vraiment des bases.
Vous avez pris un forfait illimité?
Malheureusement, ouais.
Est-ce que ça vous arrive, puisque vous occupiez de jeunes, donc d'ados, est-ce que ça vous arrive de discuter de votre usage des écrans en général, hein, télé puis numérique, est-ce que ça vous arrive de discuter de votre usage des écrans avec les jeunes, et puis qu'est-ce qu'ils vous en disent? Parce que vous, finalement, vous avez que 22 ans, parce que moi, je discute avec eux, mais moi, j'ai 57 ans.
On en parle peu, parce que du coup, c'est vrai que je suis un peu en décalage avec eux, mais quand on en parle et qu'ils apprennent que j'ai pas de télé, oui, c'est invraisemblable. On parle aussi un peu de leur rapport à l'écran, et surtout de leur sommeil, parce que c'est vraiment ça, du coup, qui est en danger, quoi. Voilà, après, je m'y connais pas assez pour leur faire la morale sur les effets et compagnie, mais voilà, ce que j'en sais, c'est qu'on essaie d'en parler. Il faut avoir plus un aspect préventif que moralisateur avec eux, en tout cas.
Je pense qu'effectivement, la morale, c'est même le dernier des trucs à faire. Par contre, dans les choses qui peuvent être positives, c'est leur montrer, puisqu'ils font un usage du numérique intense pour certains, c'est leur montrer qu'il y a d'autres choix qui sont nettement plus culturels et puis qui vont leur plaire. C'est sûr que si on leur demande, si on leur propose tout de suite d'aller regarder sur Internet, enfin supposant qu'il y soit, il ne doit pas y être, le dernier Jean-Luc Godard, adieu au langage, là c'est sûr qu'ils vont halluciner, ils vont dire mais il est complètement fou ce gars-là. Par contre, il y a par exemple Matrix, voilà un film hollywoodien, grand public, etc. Et c'est typique. Et là pour le coup, Matrix, les gamins qui sont accros à la réalité virtuelle, ils sont aussi accros à Matrix. Hein, et puis au moins Matrix, ça fait réfléchir à la réalité virtuelle. Ce qui n'est pas le cas. Bah, Call of Duty, ça ne fait pas réfléchir à la réalité visuelle. On voit bien en discutant avec les gamins. Ils disent, ouais, mais que... Enfin, c'est un jeu qui est quand même assez violent. Le graphisme, c'est très réaliste. Quand vous tirez dans quelqu'un, vous voyez bien la balle qui explose avec la chair qui gicle. Enfin, c'est quand même costaud, hein, Call of Duty. C'est quand même violent. Et là, du coup, ils ne voient pas la distance. Par contre, on leur projette Matrix. Et là, ils se disent, ah ouais, tiens, c'est vrai, il y a un truc. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se joue là, qu'ils ne voyaient pas avant. Autrement, il ne faut pas leur faire la morale.
Vous pensez franchement que les jeunes confondent la réalité avec la virtualité ?
On répondait la première et je répondrai après.
Il ne faut pas du tout faire de généralité. Après, c'est plutôt le rapport à la violence en fait, qui est différent et qui est un peu gênant. Parce que c'est ça qui est changé et qui est amplifié. Et oui, bah, je vais mettre une balle dans la tête, ça va faire comme ça, comme ça. Et ce n'est pas forcément mélanger la réalité et la fiction, quoi, mais c'est plus... Le rapport à cette réalité en fait qui change, je trouve.
Le rapport à la réalité.
À cette réalité-là. Bah, c'est-à-dire qu'il est biaisé par les images qu'on voit, par une facilité de parler aux gens, alors qu'en fait c'est pas vraiment du sociable, le social. Enfin voilà, c'est toute la vie réelle en fait qui change, je pense.
Ah ben, vous voyez, j'ai bien fait de laisser Camille, hein, répondre la première, parce que moi j'aurais fait exactement la même réponse. Évidemment, ils vont dire, mais oui, mais ça, on sait bien que c'est faux. Mais ce qui change, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est le rapport à la violence. Alors évidemment, le rapport à la violence, ça ne concerne pas 100% des gamins, parce que ce n'est pas parce qu'ils vont voir Call of Duty qu'ils vont assassiner leur voisin, hein, ça c'est clair. Mais ça empêche qu'ils ont un rapport à la violence qui est modifié. Alors pour une part d'entre eux, à modifier un peu, pour une petite part, modifier beaucoup, et c'est jamais modifié dans le sens qu'ils vont devenir non-violents, puis qu'ils vont se mettre à lire Gandhi ou Martin Luther King. Hein. C'est toujours modifié dans le sens que, ouais, mais bon, voilà, ils ont l'impression que ça devient la norme. Et donc, du coup... Il y a une part aussi de propagande, finalement, et les gamins, ils se prennent ça en pleine poire, là, pour le coup.
Vous autorisez jusqu'à quelle heure pour appeler une personne sans qu'il y ait une nécessité d'urgence?
D'accord. Ça va dépendre du rapport avec la personne, mais quelqu'un que je connais pas, je dirais 20h, et quelqu'un de proche, je dirais 21h30, 22h, mais pas après.
Je suis déçu.
Oui, parce qu'évidemment, il espérait que vous alliez répondre minuit, 1h.
Et on vous appelle?
On m'appelle à 23h30, je suis pas sûre de répondre.
Vous coupez votre téléphone?
La nuit? Non.
Philippe, que retenez-vous de cette aventure d'interview en marchant dans la rue à la rencontre du public ?
Ah bah déjà, j'étais surpris parce qu'on a vu que trois groupes de personnes, les trois, ils ont accepté aussitôt de répondre. Ils ont même été intéressés tous les trois. Ça aurait pu durer plus longtemps, quasiment. On peut supposer qu'un sujet, finalement, qui intéresse nos concitoyens, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, là, encore une fois, le bémol, c'est que visiblement, on est tombé sur des personnes qui étaient concernées à des titres divers, hein, de toute façon, mais qui étaient concernées par cette question, qui réfléchissaient sur cette question. Voilà. Il faudrait savoir si on fait d'autres types de sondages, notamment dans les classes, là, on arrivera à un résultat qui est totalement différent, quoi. On arrivera à un résultat où les gamins revendiquent, enfin, notamment les enfants, mais revendiquent le caractère quasi éducatif de jeux vidéo. Ils ont une absence complète de réflexion par rapport à la violence. Moi, personnellement, je pense que le web, il fait énormément pour la montée de la violence. On peut au moins citer la propagation des vidéos djihadistes, ça c'est quand même une chose. Là, pour le coup, parce que ça, c'est un élément extrême. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la propagation de la pornographie. Et puis là, on peut dire que la pornographie sur le web, ça n'a strictement rien à voir avec la pornographie papier. d'il y a 40 ans où dans les gares, il y avait des espèces de petits fascicules en noir et blanc. Là, c'est complètement différent parce que les choses qui sont montrées, là, ces espèces de performances extrêmement violentes dans lesquelles les femmes sont toujours humiliées et dominées.
Merci à Philippe Godard, auteur de nombreux ouvrages dont La Toile et Toi paru aux éditions Gulfstream et Le mythe de la culture numérique paru aux éditions Le Bord de l'eau. Et merci à
Claire,
Yuna,
Camille
pour leur libre participation à ce reportage.
Après, il y a aussi le problème du temps. Ça, c'est quelque chose de fondamental, la question de l'immédiateté. Donc les gens se connectent pour savoir ce qui se passait là tout de suite et tout. Mais est-ce que c'est vraiment important de savoir ce qui s'est passé là tout de suite ? Peut-être que c'est plus important de savoir ce qui est important et puis de prendre le temps de la réflexion. Ben voilà, il s'est passé ça. Donc, et là, on pourra toujours dire ce qu'on veut. Mais le temps de la discussion avec d'autres ou le temps de la lecture de quelque chose de papier, on est moins dans l'immédiateté. C'est physiologique, là, pour le coup. Parce que si on parle, bon, il faut faire la phrase. Après l'autre, il faut qu'il écoute, etc. Il y a une histoire de temps. Sur Internet, boum, on se prend le truc tout de suite. Ça vient de se produire. Allez, hop, on va sur un moteur de recherche. Bing. Et puis ça y est, on a la réponse. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Et l'immédiateté, ça pose un problème par rapport... Enfin, c'est un problème politique, essentiellement. Après, c'est un problème éthique. Et puis après, c'est aussi un problème personnel. Parce qu'il y en a... L'immédiateté, ça finit par faire augmenter le niveau de stress, etc.
J'étais en train de me dire que c'est tout à fait normal que nous n'ayons croisé aucune personne addicte, parce qu'elles sont toutes devant leurs écrans.
Bah écoutez, vous avez peut-être raison, bah, finalement on va rentrer dans une maison chez n'importe qui, et... mais bon, je sais pas comment on va être reçu. Si la mitraillette avec laquelle ils ont envie de nous recevoir n'est que virtuelle, on peut essayer. Je suis évidemment pas paranoïaque, et puis le but de la manœuvre, c'est surtout pas de dire que le web, c'est le grand Satan. C'est plutôt de dire que l'usage que malheureusement les marchands promeuvent du web, c'est pas un usage qui va vers l'émancipation.
Merci Philippe.
Merci à vous.